Je veux que tout change.
Ce soir, dans l'atelier fiction, un écrivain donne corps à son roman. Arnaud Catherine donnera voix à Aurélien, personnage de son dernier livre « Je ne retrouve personne ». Il est accompagné du musicien Florent Marché. C'est un concert littéraire pour imaginer la bande originale d'un roman. Nous sommes aux correspondances de Manosque, fin septembre, entre l'été et l'automne. Aux premières pages du livre, Aurélien Delamarre est chargé par ses parents de régler la vente de la maison familiale. C'est la première fois qu'il s'y retrouve seul. Les fantômes peuvent commencer à siffler, à murmurer, à chanter.
Je ne retrouve personne, d'Arnaud Catherine. Concert littéraire par l'auteur et Florent Marché, enregistré en public dans le cadre des correspondances de Manosque au Café Provisoire le 26 septembre 2013.
Je ne retrouve personne. J'ai dit à mon frère la vérité, ça ne m'arrangeait pas du tout, surtout en ce moment.
Tu vois une autre solution ?
Non, je n'en voyais pas d'autre.
On peut pas leur demander de faire 1000 bornes pour une estimation. Papa va encore insister pour prendre la voiture. Je veux plus qu'ils prennent cette bagnole. On sait où ça va finir. Je suis désolé que ça tombe sur toi, Aurel, mais là je suis coincé.
Qu'il soit en tournage, en montage, en mixage et j'en passe, mon frère est toujours coincé. Par compensation, je suis supposé ne l'être jamais, disponible quoi que j'en dise. Si je lui fais rarement entendre raison à ce sujet, ni sur aucun autre, j'ai du moins appris à me défendre à minima. Je te rappelle que j'ai publié un roman début septembre et que je suis en pleine promo.
2 jours. T'arrives dimanche, t'aères un peu. Tu fais la visite lundi après-midi avec le type de l'agence et tu es le soir même à Paris. Ne me dis pas qu'un aller-retour en Normandie va planter ta promo.
Mais pourquoi tout précipiter, là ? Mon frère a soupiré dans le portable. Je l'ai entendu feuilleter une revue d'un geste machinal.
Ça fait combien de temps qu'on parle de cette vente ?
Longtemps.
Je suis venu un week-end dans Tout et pour tout cet été. Quant à toi, on ne t'a pas vu depuis 5 ans.
Oui, ben j'ai mes raisons.
Encore tes vieux trucs.
C'est comme ça que tu parles de Junon ?
Je sais, ta grande rupture à marée basse.
Je trouve ton petit résumé super déplacé.
C'est pour nous que papa et maman ont gardé la baraque. Ni toi ni moi n'y foutons plus les pieds, alors c'est vite vu.
Et ça tombe sur moi.
Plus ça va aller, moins ils vont quitter Nice. Je les comprends.
J'ai jamais dit que je comprenais pas, bordel. Je trouve juste le moment très mal choisi. Et d'ailleurs, pourquoi ils m'en parlent pas directement ?
Maman avait peur que ça t'emmerde.
C'est le cas. Il n'empêche... Elle pourrait m'en parler.
Bon, c'est moi qui l'ai eu en premier, et après.
Parce que tu réponds au téléphone, toi, maintenant.
Oui, cette fois, j'ai décroché.
J'ai 35 ans. Cyril, 3 de plus. J'ai longtemps et naïvement espéré que cet écart s'estomperait avec les années. Mais non. Cyril reste et restera l'aîné, et moi, celui qui se doit d'être aux ordres. A fortiori, depuis que nos parents ont vendu leur pharmacie, quitté la Normandie et atteint cet âge où l'on attend légitimement de menus services de la part de ses enfants. Cyril prend son rôle de coordinateur très à cœur, excellent dans l'art de me refiler les bâtons merdeux. De mon côté, j'estime ne plus avoir l'âge d'être traité comme un larbin corvéable à merci. Nos accrochages sont donc balisés et prévisibles. Le commandeur m'intime ses ordres, n'hésitant pas à me culpabiliser lorsqu'il s'agit de prêter main forte à nos parents. Je commence par résister et m'agiter vaguement, ingrat freinant des cas de fer, question de principe. Et je finis, invariablement, par obtempérer.
2 jours, qu'est-ce que c'est ? Je t'assure que si je pouvais y aller, j'irais.
Tu mens, enfoiré. Pas dit, mais pensé. Bruit sec des pages qu'il continue à tourner. Ce besoin de diversion permanente chez lui m'a toujours exaspéré. Tu promets que je suis rentré lundi soir ?
C'est un fait. Tu seras rentré lundi soir.
À part ça, t'as lu mon livre ? Toujours pareil avec lui. Rendre les armes in fine, mais tenter d'attraper une petite compensation au vol.
Pas eu le temps.
Tu sais ce que c'est qu'un tournage ?
À quoi bon répliquer ?
Après tout, ça peut te faire du bien, un break à la mer au milieu de ton marathon. T'as pas une nana sous le coude à emmener ?
Comment un garçon aussi intelligent et talentueux peut-il être si naturellement et régulièrement vulgaire ? Je ne saurais jamais. Je constate.
Faut que j'y retourne, là. Ils m'attendent sur le plateau. Tiens-moi au courant quand t'auras vu l'agent.
Bon, en tout cas, je te préviens, je ne viderai pas la maison tout seul. Il avait raccroché. Octobre 2011. Le taxi m'a déposé devant les grilles de la maison. J'ai précisé au chauffeur que j'aurais besoin de lui pour me ramener à la gare demain en fin d'après-midi. Il m'a laissé sa carte. Depuis que nos parents sont partis vivre à Nice, ma mère s'est mise à la surnommer la Villa. Pas de colombage classique, non. Blanche à volets verts, face à la mer, avec un jardin à l'avant, en surplomb de la plage. Papa et maman ne l'occupent plus qu'un mois et demi l'été. La façade n'était pas si défraîchie la dernière fois que je suis venu, il y a 5 ans. J'ai dû forcer les volets du rez-de-chaussée, le bois a joué, la peinture s'écaille. À l'intérieur, tout semble être resté en l'état de mon enfance et de mon adolescence. Comme si nos parents avaient souhaité ne rien emporter avec eux, tout réinventer dans le sud et rompre avec ces longues décennies normandes. Seules quelques photos encadrées dans le séjour attestent d'un passé plus ou moins proche. On y voit mon frère et sa compagne Karen à la naissance de leur enfant Gabriel. Et puis il y a ce portrait de moi, sans Junon. Maman a fait disparaître le tirage où elle figurait. Sur la table basse du salon, on a abandonné quelques exemplaires du Figaro datés de mi-août dernier. Pour le reste, tout est resté fixé dans un temps révolu. Alors j'ai fait le tour du rez-de-chaussée. Maman a toujours affectionné une décoration raffinée, mais si sobre et fonctionnelle que sa villa en paraîtrait quasiment impersonnelle. Rien que le strict nécessaire, nulle fioriture. On pourrait croire à une maison prête à être louée, chose à laquelle ils n'ont jamais pu se résoudre, nous laissant libre, mon frère et moi, de l'investir là où nous l'avons plus volontiers déserté. C'est la première fois que je suis seul à Villerville. J'ai détaillé les quelques livres qui trônent sur la petite étagère en bois de la véranda. Il s'agit de classiques publiés dans des éditions de cuir. Gide, Balzac, Zola. Ils sont là pour faire beau. Quelques tomes d'Angélique Marquise des Anges, de grand format sur la Normandie, et puis ce livre, hérité de mes grands-parents maternels, qui nous a tant fait rire avec mon frère, « Convenance et bonnes manières de Berthe Bernage », un guide bourgeois publié en 64 d'une facture réactionnaire hilarante. J'ai allumé l'électricité et la chaudière dans la cuisine. Si le réfrigérateur a été récuré, dégivré, les placards, eux, sont pleins. C'est encore la signature de maman. Ce détail m'a toujours fait penser à la vie matérielle de Marguerite Duras, et plus précisément à ce chapitre consacré aux listes que font les femmes, inventoriant tous les produits qu'il faut avoir chez soi en permanence. Des choses élémentaires, sel fin, sucre, café, vin, pommes de terre, pâtes. Et puis, plus poétique, sans doute parce que j'aurais pas pensé de moi-même, tomates pelées, plomb électrique, Chatterton. Un jour, j'avais lu ce passage à ma mère, qui m'avait dit « C'est pas très littéraire, dis donc. » Maman a toujours préféré Pagnol et Prévert. J'ai décidé de m'installer dans la chambre la plus vaste, au second, dans laquelle mon frère et moi avons cohabité pendant près de 12 ans. C'est dans cette pièce que se trouve le cœur de mon enfance. J'ai aimé éperdument cet air confiné que maman venait ventiler à intervalles réguliers, ouvrant grand la fenêtre et nous forçant par la même occasion à ranger ce bordel impossible à éradiquer. Et j'ai bien sûr désespéré à part égale de cette promiscuité avec Cyril. Le régent n'étant jamais lassé d'exercer son petit pouvoir sur moi, les seuls moments qui m'appartenaient vraiment étaient ceux que son sommeil m'allouait. Je garde de cette époque l'habitude de m'endormir très tard, et vraisemblablement ce tempérament fuyant maintes fois diagnostiqué par Junon. Faut dire que papa et maman, enfermés à la pharmacie du matin jusqu'au soir, n'étaient pas là pour arbitrer quoi que ce soit. Je crois qu'ils ont vaguement vu se dessiner le rapport de force entre les deux fils, mais sans jamais en prendre réellement la mesure. Étrange d'inventorier ces images, ces souvenirs. Comme si la perspective de vendre la maison, et de ne jamais revenir dans le coin très probablement, entérinait brusquement le sceau du passé, laissant l'arrière-goût que l'on sait. J'ai erré dans Villerville un moment. J'ai fait une brève halte devant la carte d'un restaurant que je ne connaissais pas, le Cottage. Ailleurs, tout est demeuré à l'identique. La poste, logée dans une maison haute et étroite en face de l'ancien lavoir, la minuscule bibliothèque, la boutique d'antiquités, le bar tabac où l'on achète la presse. Je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais parti alors. Je suis revenu comme on rentrerait. Passer par-dessus bord, je reviens et j'ignore. Ce qui nous ramène au bord. On a déjà vu la mer rendre certains corps qu'on avait dit porter disparus. Qu'on avait dit porter disparu. Je reviens encore. Tu n'as même pas vu que j'étais parti alors. Je suis revenu comme on rentrerait au port. fatigué de passer par-dessus bord. Envie de boire du vin. Cave fermée à clé. Fouiller la commode de l'entrée où mes parents ont toujours eu l'habitude de ranger les trousseaux, rien trouver. Inspecter séjour et cuisine. Ah, j'ai fini par les trouver cloués au fond d'un placard dans le cellier. Impression de devoir me débrouiller chez des inconnus. Penché au-dessus des joyaux de mon père, je me suis choisi un Château Margaux 2005 et je suis sorti dans le jardin avec mon verre. Papa n'a pas rentré la table et les chaises de jardin au garage avant de partir. Elles commencent à rouiller. Les mauvaises herbes ont repris leurs droits sur la pelouse scrupuleusement tondue exigée par maman lorsqu'ils séjournent ici. Décidément, la villa atteste d'incontestables signes d'abandon. Bien sûr, il y a là quelque chose d'un peu triste, mais nos vies à tous sont désormais ailleurs. Que faire contre ça ? J'ai marché un long moment sur la plage en contemplant les usines du Havre disparaître dans l'obscurité. S'efforcer de ne penser à rien, contempler la mer étale, respirer l'air chargé d'iode, sentir mes pas sur le sable et les couteaux de mer qui cassent. Juste ça. Et puis les images redoutées ont fini par m'assaillir sur le chemin du retour. Et cette scène, encore vivace, que je me suis évertué à fuir. Junon, réitérant sa demande au détour d'une journée d'été sans histoire. Un enfant. Moi, refusant, toujours et encore, empêtré dans des justifications qui n'étaient déjà plus de mon âge à l'époque. Alors, le coup d'arrêt. La grande rupture à marée basse, comme l'a formulé mon frère avec la bienveillance qu'il caractérise. Ce jour-là, j'ai enfin compris l'endurance qu'il avait fallu à Junon pour encaisser de si nombreuses fois mon refus obstiné, aveugle, comment le qualifier. Elle avait tout essayé. Ne cessant de me donner une énième chance sur tous les tons, balançant du silence hostile à l'ironie supposée dédramatisée, et puis finissant par céder à ces mouvements d'humeur que de très illusoires cessez-le-feu venaient interrompre. Alors, ignorant jusque-là quand le couperet tomberait, mais découvrant que c'était bel et bien ce jour-là, un jour comme les autres en somme, elle avait rassemblé ses affaires, m'avait demandé sèchement de la conduire à la gare, et je l'avais accompagnée, incapable de la retenir, incapable de rien. Les explications viendraient plus tard, s'il était encore utile d'expliquer quoi que ce soit, car j'avais saisi, et elle aussi. Nous étions deux amoureux qui allaient se quitter avant même de s'être désaimés. Il y avait cet enfant dont je ne voulais pas, alors ce serait sans elle aussi, dorénavant. Le refus de l'enfant venant s'ajouter à tant d'autres choses qui auraient de toute façon fini par avoir raison de nous. Inatteignable, selon ses propres termes, absent, de passage, irrégulier, sacrifiant tout à l'écriture à commencer par elle. Aimer n'est rien d'autre qu'un arrangement, jusqu'à ce que l'arrangement ne soit plus tenable. Et il ne l'était plus, me dirait-elle plus tard, au moment de la réelle séparation. Depuis, Junon et moi avons complètement échoué à nous perdre de vue, nous fréquentant aujourd'hui encore comme deux vieux amants pas très nets. Oh, je sais très bien ce qu'en pense mon frère. Je prétends couramment que je m'en fous, que tout ça n'est pas si malsain. Mais en réalité, je m'en fous pas du tout. Alors non, je n'étais jamais revenu à Villerville, ce bord de mer que par ailleurs Cyril et moi avons quitté sans regret après le bac. J'ai beau avoir grandi ici, mon village natal est jusqu'à nouvel ordre le lieu funeste où j'ai sabordé ce que j'avais sans doute de plus précieux. J'ai fini le château Margaux en rentrant, pas pris la peine de fermer les volets, tout éteint vivement demain. Rideau. 10 octobre 2011. Rêvé cette nuit que mon père débarquait chez moi à Paris. Il me racontait avoir lu, en un temps record, une après-midi, l'un de mes livres, un pavé comme j'en ai jamais écrit, dans une édition de poche. Il n'était que louange. Dans la séquence suivante, je faisais ce bref récit à Junon et je concluais « C'est terrible, j'y ai cru ». J'y ai cru, maintenant je sais que je vais me réveiller, et que c'était un rêve. Mon père n'a jamais fait de commentaires concernant mes romans. Pour le premier, je me rappelle l'avoir entendu parler de fierté avant de le lire. Et c'est tout. Pour les suivants, silence total. Contrairement à ma mère. Mais que s'est-il passé pour que t'écrives des trucs pareils ? Comprendre qu'avons-nous mal fait ? Depuis, maman se contente de déplorer telle ou telle photo parue dans la presse, me trouvant souvent grise mine, à raison. Papa ? Rien. Alors pour ce qui est des films de mon frère, la situation est un peu différente. Sachant que son engagement politique passe très très mal à la maison, et qu'il a par ailleurs épousé une comédienne souvent pistée par la presse, et donc lui avec, il a imposé le silence et ne tolère plus aucun commentaire, même bienveillant. Le coup de l'autruche autoritaire. Je crois qu'il s'en trouve super peinard. Il n'empêche, j'ai souvent tenté de me mettre à la place de nos parents et d'imaginer combien nous avons dû les désarçonner. Leurs deux enfants ne sont pas devenus, eux, en mieux. C'est donc ça de grand-fils, l'un documentariste, l'autre écrivain. Deux inventions insituables sur l'échelle sociale qu'ils s'étaient représentées. Le chemin que papa et maman avaient tracé pour nous était pourtant simple. Faire des études sérieuses et accéder à un niveau de vie encore supérieur au leur. Un idéal parmi d'autres, la faculté de médecine. Ou encore une grande école de commerce. Réussir et vivre dans le confort ne nous a toutefois jamais occupés, Cyril et moi. Ce n'est pas à une classe que nous voulions appartenir, mais à un milieu. Pour sérieux que furent nos diplômes, ils ne nous ont pas conduits à gagner beaucoup d'argent ni à briguer un statut social clair. Au contraire, flou. Oui, nous sommes venus compliquer les choses et l'aligner avec moi. Je l'ai même arrêté. On a sonné à 15h comme prévu. J'ai fait entrer l'agent immobilier sans préambule, impatient d'en finir.
Salut Aurélien.
Alors, je l'ai tout de suite reconnu, mais son nom m'échappait, blackout total. J'ai répondu à son sourire comme pour gagner un peu de temps. Il semblait nager dans son costume, une coupe croisée, là, d'une couleur indéfinissable vers quelque chose. Cheveux broussailleux sur les branches de ses lunettes, une barbe naissante. Il a fait quelques pas dans le salon et tout m'est revenu. Hervé. Hervé Mallet, fils d'ouvrier avec qui j'ai fait l'essentiel de mon collège et de mon lycée, acolyte de Benoît Dehaye, qui allait devenir mon meilleur ami. Tu veux du café ?
Je veux bien.
Je me suis engouffré dans la cuisine. Hervé me rappelait à cette période bien trop longue, durant laquelle ma frêle allure et ma voix de fossé me valurent quotidiennement au collège-lycée de Deauville, dans le bus qui nous y emmenait, ou sur la place du lavoir de Villerville, des tantouses, des tapettes accompagnées de rires gras et menaçants. C'est mon frère qui se chargea de me défendre dans un premier temps. Hervé et Benoît faisaient figure de leader, ajoutant à leur charge des connotations qu'ils empruntaient à leurs parents, sale fils de Bourges étant le plus courant. Je m'en étais ouvert une fois à mon père qui m'avait conseillé de bien choisir mes amis et pour le reste, de serrer les dents. « Ça te lâchera avant que ça les reprenne !» Expression qui ne me fut d'aucun secours, bien sûr. C'est pourquoi, lors de mon passage en seconde, date à laquelle mon garde du corps fraternel m'abandonna pour aller faire ses études à Paris, constatant que le hasard des répartitions nous réunissait Hervé, Benoît et moi dans la même classe, anticipant la torture que me serait leur voisinage, sans compter les brimades dans les vestiaires avant et après le sport, j'entrepris tout simplement de les séduire pour les neutraliser. Mon frère fut tout d'abord désarçonné par la manœuvre. « Tu vas quand même pas te mettre à fréquenter ces types qui t'insultent 6 fois par jour !» Mais je lui expliquai mon plan, qu'il ne trouva finalement pas si idiot. Ces deux-là seraient mes meilleurs amis dans un mois, pris de ma tranquillité. J'ai oublié les ressorts de ma technique d'approche. Toujours est-il que dès octobre, il ne fut plus jamais question de tantouse ni de fils de Bourges dans leur bouche. Habitué jusque-là, dans une logique de classe à laquelle on réfléchissait pas loin du monde, à ne fréquenter que des enfants de notables, je me surpris peu à peu à délaisser mes semblables pour passer le plus clair de mon temps avec Hervé et puis avec Benoît. En ma compagnie, Benoît abandonnait ses numéros de fier à bras et se laissait aller à de fréquentes confidences. Élevé par un père alcoolique et brutal, qui l'imitait sans s'en apercevoir, sous le regard d'une mère dépassée, Benoît vivait chichement au milieu de trois frères aînés tout aussi braques que lui. J'ignore par quel miracle une telle amitié put naître entre nous. C'est sans doute cette sensiblerie qu'il avait tant raillée chez moi qui finit par le mettre en confiance, lui offrant une écoute, une empathie dont il doutait peut-être jusque-là qu'elle puisse être possible. Hervé ne tarda pas à jalouser notre proximité, soupçonnant que nous partagions autre chose que le récit circonstancié de la vie au lycée. Bon, puis nous nous sommes perdus de vue après mon départ de Villerville. De ces séparations qu'on juge impossibles sur le papier, mais qui se font si naturellement en réalité. Et c'est fort de cette distance que je consacrais mon deuxième roman à Benoît, dont la personnalité m'avait à ce point touché qu'elle m'inspira à l'époque bien plus que ma petite existence. Ça s'appelait « Un provincial ». C'était un texte court, où il se passait pas grand-chose, sinon la dérive d'un adolescent maltraité par son père, marchant sur le fil de nuits alcoolisées et de journées poisses dans un village français lambda. L'impossibilité de s'octroyer un destin, la bataille quotidienne pour échapper à la violence paternelle. Voilà ce qu'évoquait en substance le roman, le tout transposé dans un milieu bourgeois pour qu'on puisse pas reconnaître Benoît. Mais que s'est-il passé pour que t'écrives des trucs pareils ? Alors je commençais par essayer de rassurer ma mère, arguant qu'il s'agissait de pure fiction. Qu'est-ce qu'on va penser de ton père, lui qui ne boit qu'aux grandes occasions ? Constatant que je les avais plongés involontairement dans un profond désarroi et qu'ils se sentaient mis en joue par leur cadet dont ils pensaient pourtant n'avoir rien à craindre, je dus abattre mon jeu et expliquer à maman que le héros de mon livre me ressemblait pour une part, on n'est quand même jamais mieux servi que par soi-même, mais qu'une autre part substantielle m'avait été inspirée par Benoît, tu sais, mon ancien camarade de classe que j'ai pas revu depuis des lustres. Plutôt que de la calmer, mon explication redoubla son accès de panique. « Mais de quoi tu te mêles si les parents de Benoît viennent à lire ça ? Des clients de la pharmacie en plus ?» J'étais coupable. Coupable d'avoir laissé planer une ambiguïté à propos de mes parents, et puis d'avoir mis à nu en place publique de braves gens qui n'avaient rien demandé à personne. Comme je l'ai dit, mon père ne fit aucun commentaire au sujet de ce roman. À la réflexion, je ne suis pas sûr qu'il l'ait lu. Quant à Villerville et à ses habitants, il ne me semble pas qu'on en parlât plus que ça. Benoît a-t-il jamais eu connaissance de ce livre ? L'a-t-il lu ? Et sa famille ? Ou encore, Hervé ? Oh, je me les suis souvent posé avec anxiété ces questions. J'avoue que je m'attendais quand même à un signe de Benoît, qui ne vint jamais. Et puis le temps a passé, je suis si peu revenu à Villerville. J'ai publié d'autres romans. Alors je concède que ces questions ont fini par se dissoudre tout aussi naturellement que nous nous étions perdus de vue. Et voilà qu'Hervé débarquait à nouveau dans ma vie en ce début d'après-midi. Hervé dont j'ignorais totalement ce qu'il était devenu, hormis ce que je voyais de lui, un costume mal ajusté, une mallette et une estimation à faire. Il a bu son café d'une traite tandis que ma cuillère tournait encore dans la tasse. Alors, t'es toujours dans la région ?
Ouais, j'ai passé pas mal d'années sur Caen. Après, on s'est installé du côté de Barnaville, avec ma femme. On est en pleine campagne. C'est idéal pour les enfants. T'as été retenu quand tu m'as ouvert ?
Ah bah, je savais pas du tout que c'était avec toi que j'avais rendez-vous. Mes parents ont pas dû faire le rapprochement.
On est plusieurs à l'agence. J'ai un peu insisté pour être sur le dossier. Je te propose qu'on fasse la visite maintenant. Puis après, on ira faire un petit tour sur la plage, comme au bon vieux temps.
J'ai acquiescé, relativement perplexe s'agissant de ce « comme au bon vieux temps ». Il n'y a pas de bon vieux temps. Il n'y a que du temps révolu, Hervé. Qu'attends-tu d'une balade en bord de mer quand la vie a dû tout mettre en œuvre pour nous séparer et engloutir nos fragiles attaches ?
Au début, mes parents ne voulaient pas que je foute les pieds chez toi. Pas du même monde, ils disaient. Ils ne comprenaient pas qu'on soit amis. Je me rappelle quand ton frère a eu son ordinateur, un Amstrad 6128 avec disquette. Je n'ai jamais osé réclamer ça. Ça les aurait rendus fous. Aujourd'hui, je peux payer un peu plus de choses à mes enfants. On a tout le confort. Si mon père était encore là pour voir ça, il me dirait de pas tout dépenser, d'en garder pour les mauvais jours. On ne vit plus comme ça. Hein. Les crédits, ça l'aurait affolé.
Il est décédé il y a longtemps ?
6 mois après la retraite. Bam ! Crise cardiaque. C'est injuste quand il pense. Il n'aurait même pas profité. Et toi alors ? Toujours sur Paris ?
Oui, toujours.
Tu fais quoi ?
Je continue à écrire.
Ouais ? C'est bien ça. Tu écris quoi ?
Des romans.
Quel genre ? Polar ?
Non, pas vraiment, je saurais pas dire. Des romans, quoi.
Il faudra que je lise un de ces jours. T'en écris beaucoup ?
6. J'étais hyper soulagé d'apprendre qu'Hervé ne m'avait jamais lu. Quitte à entendre parler de mon livre improvincial, autant que ce soit de la bouche du principal intéressé, non ?
Et on les trouve où, tes livres ?
En librairie ? Ils existent aussi en poche. Et je m'en suis voulu de cette remarque. Comme une condescendance de classe qui ressurgissait malgré moi. Pourquoi ne pourrait-il pas se payer un livre en grand format ? Après tout, il avait une maison, tout le confort, selon ses propres termes.
Bon, il faut dire qu'on lit pas beaucoup, entre les enfants et le boulot.
Ta femme, elle fait quoi ?
Pareil que moi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. T'es marié, toi ?
Non. Il s'en est très bien sorti, Hervé. Il y a même une fierté assez belle chez lui maintenant. Une assurance dans ses questions et ses réponses. Il n'en est plus à conspuer le fils de bourgeois qui lui revient avec un métier dont il ignore tout et qui n'a pas semblé l'impressionner plus que ça. Un fils de bourgeois qui a 35 balais n'est pas le moins du monde rentré dans le rang. Il n'y avait aucun jugement dans son regard. Juste peut-être le regret que je ne sois pas comme lui. Tout un pan de conversation et d'échange s'évanouissait du fait que nous ne pourrions évoquer, ensemble, femme et enfant.
Bon, en tout cas, la maison peut partir vite. Un plan comme ça, les Parisiens en raffolent.
Oui, enfin, il y a quand même ces infiltrations au second, t'as vu ? Et je me suis demandé à quoi je jouais brusquement. J'ai imaginé la tête déconfite de mes parents et de Cyril s'ils m'avaient entendu nous tirer cette balle dans le pied.
Je vais faire venir quelqu'un, j'affinerai l'estimation en fonction. On retourne ? J'ai pas mal de visites cet après-midi. Je vais te laisser mes coordonnées. Tu repars quand ?
Je me suis surpris à dire. Je sais pas. Quand est-ce que tu penses pouvoir faire venir quelqu'un pour le toit ?
Je te tiendrai au courant, dans les jours qui viennent. On a le temps de se revoir, si je comprends bien.
Je l'ai observé quelques secondes. Et j'ai acquiescé. J'ai décommandé mon taxi. Je n'ai pas pris mon train. Soirée suspendue. Descendu une bouteille de vin, repassant le film de ces 2 derniers jours. Je suis monté me coucher et c'est tombé. Cafard à couper au couteau. Penché à la fenêtre, à respirer la nuit, juste ça, j'encaisse en quelques secondes une bouffée qui me rappelle à ma vie ici. Toute ma vie ici, d'un coup. Sans image aucune, juste un parfum d'extérieur qui ne me terrasse pas mais me laisse avec une lame feutrée qui remonte dans le thorax. Tout est là brusquement, qui n'était que commodément loin, passé. Qu'est-ce que je fous là ? Tourner en rond, ressasser toute la nuit, observer ces meubles, ces objets familiers, sans savoir ce que nous en ferons. De même que ces murs auxquels je vais devoir abandonner tout ce qu'ils ont abrité. J'ai voulu quitter Villerville à toute force, ne revenant par suite qu'avec parcimonie, et me voilà affrontant par avance la séparation d'avec cette maison. Car c'est bien ça dont il s'agit. La maison va être vendue, et je donnerai cher pour ne pas avoir à la vider, comme l'on refuserait d'aller à la reconnaissance d'un corps. Je savais ma jeunesse révolue, oui. Aujourd'hui, j'ai la tardive et imparable occasion d'en déplorer enfin la disparition. Je n'ai pas vu le temps filer. Écrire, devenir, ne pas se retourner. et je n'ai pas eu grand mal à laisser cette vie là où elle était, tant qu'elle n'était pas enterrée. La vie sans date butoir. Mais il fallait bien que je me retrouve un jour, comme tout le monde, comme nous tous, au seuil d'une affaire classée.
Oh, elle est partie, notre jeunesse. Il s'en est fallu de peu. Oh, mes amis, changez d'adresse. Je voudrais devenir vieux. Oh, les orties que l'on caresse n'ont plus rien de merveilleux. Oh, aujourd'hui plus rien ne presse. Je voudrais devenir vieux. J'y crois à peine. Ce bruit dans tes veines. Avant je ne donnais pas très cher de ma peau. Avant je m'abîmais pour paraître plus beau. Je ne voudrais pas vieillir pour rien. Pour rien. Oh, elle s'est enfuie. Quel jour était-ce? Quand j'ai coupé mes cheveux. Oh, l'ennemi, je me redresse. Tu m'appelleras monsieur. Oh, ma prairie, comme je m'engraisse. Maintenant, je vis à deux. Oh, ébloui, pris de vitesse. J'en aurai les larmes aux yeux. J'y crois à peine. Ce bruit dans nos veines. Avant je ne donnais pas très cher de ma peau. Avant je m'abîmais pour paraître plus beau. Je ne voudrais pas vieillir pour rien. Avant je ne donnais pas très cher de ma peau. Avant je m'abîmais pour paraître plus beau. Je ne voudrais pas vieillir pour rien. Pour rien.
octobre 2011. Message de mon frère.
Aurel, on attend ton coup de fil. Comment ça s'est passé la visite? Les parents s'inquiètent, rappelle.
Incapable pour le moment. Je viens de laisser un message à Hervé. J'ai fait mine de venir aux nouvelles. Et puis je lui ai demandé, comme en passant, s'il pouvait me donner le numéro de Benoît. Revoir Benoît. Savoir s'il a lu mon livre. À midi et demi, après deux cafés, je suis allé faire quelques courses. J'ai acheté de la viande, du fromage, des fruits, un tube de lessive pour laver le peu que j'ai emporté, et puis des cachets pour mon crâne. Un accès de tristesse m'a envahi au moment de rentrer dans la pharmacie. Je sais même pas si le type derrière le comptoir m'a reconnu. J'ai payé, j'ai quitté les lieux sans m'attarder. À peine dehors, c'est la place du lavoir qui s'est remise à vivre, avec cette sensation d'adolescence plantée dans l'estomac. J'ai revu les bandes là, embusquées sous la halle, prêtes à commenter la simple vue de mon corps trop long, trop maigre, de mes traits pas suffisamment masculins, et les accents de cette voix qui tarda tant à muer. Paris m'aura, entre autres choses, autorisé ça. Pouvoir me fondre dans la foule, marcher dans la rue, sans craindre de me faire insulter. Mes livres m'auront autorisé plus exaltant encore, être entièrement responsable des jugements que j'inspire, fussent-ils négatifs. Ah, il s'était de nouveau éveillé en moi, l'adolescent, obnubilé par ce seul horizon, partir, et ne plus jamais se voir humilié pour des choses si peu consenties. Un corps. Si j'ai cousu mon destin à celui de mon frère, projetant d'échapper avec lui à mon village, c'est d'abord parce que je me savais indésirable, indésiré. Et voilà que j'étais brusquement ce garçon de 35 ans, traversant la place du lavoir déserte, une légère anxiété dans la paume des mains, guettant, jetant des coups d'œil furtifs alentour, mais rien ne vient. Et où sont-ils ceux qui l'ont écrasé si quotidiennement ? Vieilli, casé, parti, oublié, agent immobilier, pas là, assagi autrement ailleurs. J'ai interrogé ma messagerie en rentrant. C'est une voix hésitante qui m'attendait. Celle d'Hervé.
Benoît est mort, il y a 4 ans déjà. Je pensais que tu avais su.
Suivez quelques phrases balbutiantes, un raclement de gorge, son souffle dans le combiné qui cherche à reprendre la parole sans parvenir à trouver le moment approprié. J'ai reposé le portable, j'ai voulu aller boire un verre d'eau, mais je n'ai pas bougé. J'ai réécouté le message. Et puis j'ai marché jusqu'à la sortie de Villerville, rue du Maréchal Leclerc, face au musée du coquillage. Le cimetière est discrètement encastré entre 2 allées. Il y a là quelques dizaines de tombes, pas plus. J'ai retrouvé sans mal le caveau de mes grands-parents maternels. J'ai aperçu aussi le granit sombre de Fernand Ledoux, petite gloire locale. Et d'instinct, je suis allé au fond du cimetière, près d'un grand if, là où plusieurs mètres carrés semblent encore disponibles. Je n'ai pas tardé à le trouver. Qu'ai-je trouvé ? Son nom ? Benoît de Hé ? Et puis les dates ? 1975-2007. Les 2 pots de fleurs semblent régulièrement entretenus. Pour le reste, rien que la pierre pâle, modeste, et cette plaque à notre fils bien-aimé. Nulle pièce à conviction, juste une confirmation. Les tombes ne servent qu'à ça, chasser ce sentiment d'irréalité. Oui, il y a bien le bruit des mots, mais de réalité. Il me faudrait un récit, là. Une représentation autre qu'une sépulture bon marché pour laisser le fantôme prendre corps. Il me faudrait une reconstitution des faits. J'ai repris la direction du centre-ville. J'en voulais confusément à Hervé de m'avoir annoncé ça par répondeur interposé. Je suis resté arrimé au canapé du salon toute la journée et je me suis forcé à manger une boîte quelconque. Je faisais quoi, moi, en 2007 ? En 2007, pendant que Benoît disparaissait pour d'obscures raisons, j'habitais seul à Bastille, un petit studio hors de prix que je n'allais pas tarder à quitter. En 2007, des filles m'y rejoignaient, que je regardais avec un air désolé au moment de leur dire que non, on ne se reverra pas. En 2007, je sortais frénétiquement, guettant l'oubli et l'horizon d'une renaissance. En 2007, je m'enfonçais, je buvais, sitôt la nuit tombée, comme toujours quand je bois. En 2007, je ne pensais plus à Benoît, pas plus qu'à ce livre, un provincial, roman qui avait fait son temps. Non, je m'évertuais à tenter d'enterrer mon histoire avec Junon, mettant la main à un autre roman intitulé « Sans elle ». En 2007, j'avais 31 ans, un sentiment poisse d'échec collé au basque dans lequel je me vautrais complaisamment. Et lui ? Il crevait.
Où étais-tu quand j'étais mal fichu, un ado chevelu? En sortant du bahut, je manquais de tenue. Où étais-tu quand j'étais abattu, né de père inconnu? Je cherchais des tribus dans un monde exigu. Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu quand je partais vaincu, cherchant des amours crus dans des nuits suspendues à des lèvres cousues? Où étais-tu? Je fêtais mes débuts au Coca Malibu, une vie biscornue, les samedis au SAMU. Où étais-tu? Sur quelle planète? Quelle galaxie? Sur quelle comète dis? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu quand j'étais à la rue, longeant les PMU, misant sur des tahus, des chevaux inconnus? Où étais-tu lorsque mes gardes à vue passaient inaperçus pour mes amis bossus? J'avais juste trop bu. Où étais-tu? Sur quelle planète? Quelle galaxie? Sur quelle comète dis? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu quand je ne m'aimais plus, abîmé et barbu? On m'appelait Jésus, m'aurais-tu reconnu? Où étais-tu lorsque sont apparus mes paradis perdus? Tu dis qu'on s'habitue au chemin sans issue, au chemin sans issue. Où étais-tu? Sur quelle planète? Quelle galaxie? Sur quelle comète dis? Chez quel prophète? Chez quel messie? Sur quelle planète dis? Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu?
La dernière fois, c'était en juillet 93, le soir des résultats du bac. Je l'avais. Toi aussi. Benoît allait au rattrapage.
Mes parents avaient ouvert le champagne. Il était entendu qu'ils loueraient à Paris, dès le mois d'août, un appartement pour les deux fils. Partir, c'était donc acté.
Ce soir-là, de petites bandes hilares parsemaient la plage.
J'avais rejoint l'une d'elles, celle où tu étais avec Benoît, bien sûr. Non sans une légère appréhension, mais enfin, j'avais mon bac. Je ne reverrai bientôt plus ces hyènes. C'était la trêve avant la fin des hostilités. Je me rappelle plus les prénoms de tous ces types. À l'époque, je les connaissais. Bon, il n'empêche, je m'étais assis parmi vous avec un tel aplomb qu'aucun ricanement pour une fois ne s'était fait entendre.
Mais tu étais auréolé d'une mention très bien. Après t'être fait traiter de polar, tu imposais brusquement une sorte de respect.
On se quitterait là-dessus, je savourais.
On ouvrait les bières au briquet. On les descendait au goulot. On lançait les cadavres à la mer. On portait des toasts au collet, dont des bis accéléraient. Ces parodies étant plus pénibles qu'autre chose.
Les doigts occupés à gratter machinalement l'étiquette de sa bière, Benoît sauvait les apparences. Riant aux blagues, comme un figurant soucieux de bien faire, puis se faisant de nouveau oublier. J'étais assis non loin de lui, interceptant à intervalles réguliers une détresse dans ses cernes. Son teint semblait jaunâtre, absorbant jusqu'à ses taches de rousseur qu'il avait pourtant nombreuses.
On s'agitait. La nuit tombait, les garçons commençaient à envoyer en l'air leurs t-shirts, sous le regard brillant des filles, leurs cris d'encouragement. Ça se terminerait probablement en bain de minuit, ou le front dans sa gerbe. On voyait bien où ça allait. Tu faisais passer des joints sans y toucher. Benoît tirait des lattes volontaristes. Trois ou quatre types ont fini par jeter à l'eau. On les a vus disparaître dans l'obscurité, cul nus. D'autres ont sombré dans quelques paires de poitrines convoitées depuis le début de la soirée.
Et c'est à peu près à ce moment-là que Benoît m'a adressé un regard appuyé. Sans que personne ne remarque rien, nous nous sommes levés. Il a attrapé deux bières. Nous avons quitté le groupe et marché en direction du centre nautique, au bout du remblai. Il s'est accroché à mon bras. Le verre des bouteilles qu'il tenait d'une main tintait. Il s'est laissé glisser contre la coque d'un catamaran et il a dit « Je suis défoncé ». Il s'est escrimé avec son briquet là sur une bière. En désespoir de cause, il me les a tendus, j'ai fait signe que je ne savais pas faire. Il s'est redressé et il a frappé violemment le goulot contre la coque. J'ai rentré la tête dans les épaules. Au bout de 5 ou 6 coups, elle a explosé. Il a brandi triomphalement la bouteille. J'ai dit « Non, bois pas ça, tu vas avaler des tessons ». Il a médité ma remarque d'un œil morne et puis il a jeté la bière à quelques mètres. Il s'est affalé de nouveau. Sa tête a basculé doucement vers moi. Il a marmonné « Qu'est-ce que je vais faire ici tout seul ?»« Tu parles de quoi là ?»« Bah l'année prochaine si j'ai pas le bac. »« Allez, pars pas vaincu. Pourquoi tu serais pas reçu ?» Il a hissé la paume de ses mains en signe de perplexité et les a laissées retomber comme à bout de force. « Je veux pas rentrer à la maison, mon père va me tuer. »« Bah tu vas venir dormir chez moi ?» Le son de sa voix faiblissait. « Me lâche pas. Je ne te lâche pas. Hein. » Oh, je sentais bien qu'à rester là plus longtemps, je pourrais bientôt plus l'en faire bouger. J'ai essayé de leur dresser pour qu'ils se relèvent. « Allez Benoît, là, un effort !» Il a passé son bras autour de mes épaules et je l'ai emmené vers la rue des Bains. Au loin, les flics avaient débarqué, braquant leurs lampes torches sur les fêtards, s'employant à les disperser. Une fois à la maison, j'ai tenté d'être le plus discret possible, mais maman est sortie sur le palier. J'ai dit « C'est Benoît, il se sent pas bien, alors je l'ai ramené. » Elle a soupiré, et puis elle a dit de le coucher au second. Je l'ai déshabillé. Son front ruisselait. Je lui ai fait boire de l'eau. Maman a déposé une bassine au pied du lit et elle a chuchoté « Aurel, couche-toi maintenant. » Il avait les yeux exorbités. J'allais réintégrer ma chambre, mais Benoît a dit « Non, reste avec moi. » Alors je me suis allongé à côté de lui. « Tu crois vraiment que je peux la voir ?» J'ai souri. « Allez, c'est pas perdu. » Il a tourné la tête de mon côté et il a esquissé un sourire qui s'est immédiatement transformé en une grimace. « Oh putain, ça tourne. Ben reste comme t'étais là. » Il a de nouveau calé sa nuque sur l'oreiller. Je devais déjà sombrer. Je me rappelle juste avoir dormi d'une traite. Lorsque j'ai ouvert un œil au matin, prenant le temps de me remémorer pourquoi je me trouvais dans la chambre de mon frère, Benoît n'était plus là. Ma mère m'a seulement dit que, ne trouvant pas la clé de la porte d'entrée, il était sorti par l'une des portes-fenêtres de la véranda, qui était donc restée ouverte une partie de la nuit. Quelques jours plus tard, nous partions en vacances à Sainte-Maxime, mes parents et moi. J'apprendrai dans le courant du mois de juillet qu'il avait été finalement reçu. « Tout juste », ajouterait-il au téléphone. Je fis mon entrée à la Sorbonne et ne revins à Villerville qu'aux vacances de Noël. Je ne mis pas un pied dehors, arrimé à mes cours, clandestin n'envisageant plus une seconde de croiser ne serait-ce que le spectre d'une adolescence jugée à présent révolue. Et je ne revis Benoît qu'à de très rares occasions par la suite, puis plus du tout. Qu'est-ce que je fous là ? Penché au-dessus de ta tombe, aussi insondable que tu l'as été, toi que je croyais un peu plus libre et abandonné quand tu basculais la tête vers moi. Qu'est-ce que je fous là ? À n'affronter que l'absurdité d'avoir fait le détour ? Je ne te vois pas. Je ne te reconnais pas. Ni toi, ni les autres.
C'est comme la nuit en pleine journée. On ne voit rien.
J'entends juste les bruits. J'écoute. Je suis perdu. Et je ne retrouve personne.
Mon ami, que fais-tu ? Mais que s'est-il passé ? On s'est perdu de vue dans 10 mètres carrés.
Et rien n'a éclaté, on aurait pu s'attendre à creuser des tranchées, à se brader, se vendre.
Poliment dévasté, c'en était presque tendre.
Sans bruit, on est passé de l'étincelle aux cendres. On a froid aux yeux, ça peut sembler curieux.
On a perdu le meilleur de nous deux.
J'attends la pluie pour jouer avec le feu. Mon cher ami, c'est sûr, il serait plus décent qu'on s'écorche la figure. Ne bouge pas, je descends.
Au lieu de tout cela, on s'adapte au climat. On apprend le langage des animaux en cage.
Blessé, domestiqué, incapable de dire.
Qui de nous en premier aurait su se mentir ?
On a froid aux yeux, ça peut sembler curieux.
On a perdu le meilleur de nous deux.
J'attends la pluie pour jouer avec le feu. On a froid aux yeux, ça peut sembler curieux. On a perdu le meilleur de nous deux. J'attends la pluie pour jouer avec le feu. Mon ami abattu, son passé rose à feu.
On a perdu de vue le meilleur de nous deux.
À suivre, merci.
Bravo!
C'était Je ne retrouve personne.
Florent Marché.
Par Arnaud Catherine. Merci. Et Florent Marché.
Arnaud Catherine.
Concert littéraire enregistré en public dans le cadre des correspondances de Manosque au Café Provisoire le 26 septembre 2013.
Jean-François Chauffour nous a fait le son, merci. Jérôme La Lumière.
Voix guitare, Florent Marché.
Et vous, merci.
Voix clavier, Arnaud Catherine. Prise de son, Jean-Marie Porcher et Fabien Gosset. Mixage, Jean-Baptiste Etchepare-Bord. Réalisation, Manouchak Fachaï. Chanson de Florent Marché et de Autour de Lucie. Je ne retrouve personne d'Arnaud Catherine est publié aux éditions Verticales.
Si vous êtes à Paris, retrouvez-nous demain soir au Goethe-Institut à 19h pour une écoute en avant-première de notre semaine berlinoise diffusée la semaine prochaine. En attendant, demain c'est l'atelier de création participative de Radio Grenouille quand nous étions Georges.